Bonjour. Donc, nous allons commencer à présent une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'apocalypse en présence de 5 personnes si présentes. Donc, je vais vous présenter 4 d'entre eux et le 5e étant pour moi une surprise vu qu'il n'était pas sur mon programme, va se présenter lui-même. Donc, par ordre alphabétique, Alain Damasio, auteur de romans d'anticipation politique, depuis sa première œuvre, La zone du dehors, en 2007, qui a eu le prix européen des Utopiales. Je citerai aussi La horde du contrevent, qui obtient le grand prix de l'imaginaire. Et plus récemment, il s'est lancé dans la création numérique sonore. Thomas Day, si présent, qui, outre ses activités bien connues d'éditeur, est l'auteur de La voix du sabre, de L'instinct de l'écarisseur, du sel sur les paupières, GPI 2013, et également de 7 secondes pour devenir un aigle, et qui s'intéresse à l'anticipation politique. Raphaël Granier de Cassagnac, à ma droite, physicien au CERN, qui écrit des romans d'anticipation politique, comme par exemple Thinking Eternity, qui lie le thème de l'apocalypse à celui de l'intelligence artificielle chez Mnemos en 2014, ou alors en 2011, quelque chose de plus commercial, commercial, c'est pas que le roman est commercial, c'est que ça traite peut-être un peu plus des effets nocifs du commerce dans le capitalisme sauvage, Eternity Incorporated, en 2011. Et c'était pour finir, mais donc je finis mon ordre alphabétique et on laissera la parole à Dmitri après, Walter John William, qui a écrit de nombreux romans à New York, notamment Hardwired, Câblé, qui a eu 2 prix Nebula, qui est également l'auteur de Dead Is World, The Green Leopard Plague, et à La Talente, en 2010, Le coup du cavalier a été traduit, notamment. Il a également travaillé pour les jeux vidéo, et est-ce une surprise, il s'intéresse aux romans d'anticipation politique. Donc j'espère bien que Dmitri, si présent, que je vais laisser se présenter, s'intéresse également à l'anticipation politique.
Bonsoir. Bon, moi, je suis l'imposteur inconnu qui a décidé de, voilà, comme ça, s'imposer à cette conférence. Je m'appelle... C'est pas vrai, d'ailleurs. C'est juste, je sais pas pourquoi, j'étais pas sur votre liste.
Non, il y a une erreur dans
les... Je suis venu exprès de la Russie, là. C'est pas pour rien. Non. En tout cas, moi, je m'appelle Dimitri Gloukovski. Je suis auteur des livres différents, y compris un certain bouquin qui s'appelle Métro 2033. Voilà, et... J'en sais rien plus, voilà. Il y a des jeux vidéo basés sur mes bouquins, c'est traduit en 30 langues, blabla, voilà. Peu importe.
Bon. Donc alors là, nous avons donc quand même une table ronde avec de nombreuses personnes, donc je pense que je vais avoir le temps de poser 2 questions à tout le monde, et ensuite vous pourrez en poser également, j'espère qu'on aura le temps. Alors, je partirai de l'intelligence artificielle. On essaie actuellement de reproduire la conscience de l'humain artificiellement par des moyens techniques. Bon, Sylvie Lainé a dit tout à l'heure que c'était absolument impossible qu'une conscience qui ne soit pas dans un corps puisse exister. Le corps est nécessaire pour créer la conscience liée à l'émotion, liée à l'intelligence. Mais imaginons donc qu'on pourrait reproduire une autonomie de pensée, d'émotion, etc., qui serait à son tour... Se reproduire, ce serait donc le règne de l'intelligence artificielle qui marcherait toute seule. Alors, est-ce qu'on est déjà à ce règne-là ? On peut se poser la question. Peut-être quand on voit Amazon, Facebook, Google, toutes ces mises en place d'algorithmes, on peut se poser... Bon, ça ne recouvre pas entièrement ce qu'est l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais en fin de compte, est-ce que tous ces produits qu'on essaie de nous vendre à travers ces algorithmes, produits liés au capitalisme, ne montrent pas une sorte de crainte de voir finalement... une croissance infinie s'imposer à un monde fini, et finalement ces outils algorithmiques qui servent avant tout à nous vendre quelque chose sont aussi des machines qui jouent en bourse. Hein. En fin de compte, est-ce que on n'est pas obligé d'aller vers l'apocalypse capitaliste ? Comment s'en sortir autrement que par l'apocalypse de cette impasse, disons, politico-sociale ? Donc je pose la question à tout le monde.
All right. I'll take that one. I'm not terribly afraid by the algorithms that are trying to sell me stuff through Amazon and so on, because they're very stupid. There's an entire industry among self-published writers that's devoted to decoding how the Amazon algorithm works, so that they can get their own books farther onto the chain, so that their books will be seen by most people. But most of these algorithms tend to miscalculate. They're always offering me stuff I don't want. They completely ignore the stuff that I do want. So that doesn't worry me. I think there's a kind of brute force involved, in which the repetitiousness of it becomes exhausting. But I don't feel threatened by that kind of exhaustion. I'm just exhausted by it. But artificial intelligence, such as it is created for human purposes. So people who want to make money on the stock exchange create an artificial intelligence that will help them do that. But it's very limited. An artificial intelligence that trades on the stock exchange doesn't actually know what a stock is. It doesn't know what a bond is. It doesn't know that it represents value outside of what it's been told to value. The stock exchange program doesn't know the law, doesn't know what's legal, doesn't know what's illegal. I deal with this a bit in my book, This Is Not a Game, which deals with a trading program run amok. So what we've seen of artificial intelligences so far is that they are created by humans as a kind of extension of human goal in an attempt to reach more human goals. We have yet to see anything like an artificial intelligence that has its own will. We have artificial intelligence that will play chess. None of them decided of their own free will to play chess. They were created by people to play chess. They are created by people to play the stock market. They are created by people to choose military targets. We have nothing yet to show volition among any of these intelligences that we've created.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le... Moi, j'ai pas non plus trop peur des intelligences artificielles de masse, celles qu'on commence à utiliser au quotidien pour acheter des choses comme tu proposais. J'ai beaucoup plus peur du jour où quelqu'un dans un laboratoire finira par concevoir un modèle d'intelligence artificielle, qui lui donnera une certaine conscience, donc le moment où l'intelligence artificielle commencera à vouloir des choses, à décider elle-même de ce qu'elle fera. Et là, la question, c'est quels moyens elle aura d'agir. Et si ces moyens, a priori, ces moyens, c'est nous qui allons lui donner. Donc là, je pense qu'on a un contrôle quand même de ce qu'on voudra faire à ce moment-là. Si ces moyens sont colossaux, alors là, peut-être on ira vers un apocalypse. Si on laisse une intelligence artificielle qui est douée de conscience, donc qui peut prendre des décisions, et qui éventuellement est supérieur à nous, donc c'est les deux points clés à mon avis qui sont nécessaires, donc supérieur à nous et doué de conscience, de décision, alors là on est mal barré, je pense, c'est là que, et avec des moyens, et là on est mal barré. Je pense que ces intelligences artificielles-là, si un jour elles existent, mais je pense qu'on devrait avoir les moyens de limiter ça du point de vue éthique, je pense qu'elles vont se retourner contre nous, et un peu comme nous on se retourne contre les vaches, quoi. C'est on est supérieur aux vaches, on a plus de moyens que les vaches, voilà, on fait un peu ce qu'on veut avec les vaches. Donc peut-être que si un jour les intelligences artificielles se retrouvent dans la même différentielle par rapport à nous, je pense qu'elles feront la même chose avec nous. Mais j'ai pas trop peur pour l'instant, parce que toutes les conditions que j'ai énoncées ne me semblent pas vraiment réunies nulle part pour l'instant.
Oui, enfin, moi là-dessus, je pas du tout d'accord avec l'idée qu'une intelligence artificielle peut arriver un jour à nous dépasser. En fait, j'y crois absolument pas. Je pense que cette espèce de prophétie ou de technoprophétie est une absurdité philosophique complète, quoi. Et cette absurdité, elle a un fondement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire croire d'abord que l'être humain se résume à son cerveau, et ensuite que le cerveau serait réductible à l'informatique, serait réductible en tout cas à une sorte de traitement de l'information hyper sophistiqué, quoi. C'est cette idée qu'on retrouve dans le connexionnisme. Connexionniste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, la pensée serait une propriété émergente de l'interaction informationnelle entre un grand nombre d'unités connectées. Voilà, c'est ça la définition. Or, un cerveau, c'est très clair, c'est pas une simple unité électrique, c'est une unité aussi chimique, c'est une unité également magnétique, on dit même parfois que c'est une unité quantique. Le cerveau, il a trois couches, on le sait, il a une couche reptilienne, il a une couche émotionnelle, il a une couche corticale, on a deux hémisphères, on a sur chaque neurone, on a 10 000 connexions possibles, alors que bah, à circuit imprimé, bah, vous avez un 0 ou un 1. Donc, toutes ces espèces d'assimilation, de simulation du cerveau humain par la machine, ça me paraît complètement utopique et complètement à côté de la plaque. Voilà. Il faut faire un ensemble de réductions conceptuelles et intellectuelles très fortes pour arriver à croire qu'une intelligence artificielle puisse mimer ou simuler l'être humain. Par contre, elle peut calculer. Par contre, elle peut faire des algorithmes. OK, en bourse, d'accord. Pour traiter du big data, d'accord, etc. Mais pour singer ou même approcher une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, c'est évident qu'on n'y arrivera jamais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me dire est-ce que c'est possible, parce que pour moi, c'est absolument impossible. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi des gens nous font croire que ça pourrait être possible. Voilà. Pourquoi il y a une mythologie, notamment portée par le transhumanisme, ou par des gens comme Ray Kurzweil, qui nous dit il arrivera un point de singularité à partir duquel l'intelligence des machines sera supérieure à la nôtre. Pourquoi on a besoin de poser cette mythologie-là? Bon, ça, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais moi, ça me paraît le point, je dirais, religieux ou prophétique intéressant et qui témoigne d'une volonté de manipulation assez forte sur le... Voilà, moi, je parle de machination artificielle, mais pas d'intelligence artificielle. Voilà.
C'est peut-être aussi lié à des métaphores. Hein, le moment où il y a eu l'IMAC, le premier IMAC, c'était le cerveau. On était comme une machine célibataire couplée à notre IMAC.
Oui, était... ouais, tout à fait. Non, mais il y a un récit mythologique là-dessus et il faut le décrypter aussi. Oui, tout à fait. Ouais.
Thomas ?
Alors, à mon avis, il faut comprendre quelque chose. La première, c'est qu'un être humain, déjà à la base, c'est une création, créature organique qui provient de l'état animal et pré-animal. Donc, le fait, c'est que nous imaginons des adversaires, des ennemis, ça provient de notre état naturel parce que les êtres biologiques sont en compétition totale pour des ressources. Si nous ne mettons pas comme objectif de simuler notre psychologie dans une machine, et si nous ne mettons pas des décennies et peut-être même des siècles de recherche et de travail pour simuler d'une façon exprès notre psychologie dans un environnement de machine, ça va pas arriver. Il faut pas penser que si même les capacités de calculation d'une machine vont surmonter celles d'un être humain, ce que la machine va nécessairement nous traiter comme des esclaves ou comme des adversaires ou comme un pas précédent dans l'évolution qu'elle doit exterminer pour posséder le monde. Parce que, tout simplement, nous pensons la façon dont nous pensons, nous sentons ce que nous sentons parce que on a été des singes, avant des singes, on a été d'autres créatures plus primitives, et toutes ces créatures ont toujours été dans un état de compétition pour des ressources. C'est un état dont les machines ne sont pas. Voilà, donc je pense que jamais va l'intelligence artificielle être notre adversaire ou même compétiteur pour des ressources, jamais va l'intelligence artificielle nous menacer notre existence, sauf si quelqu'un, c'est même peut-être pas une personne, même pas une organisation, mais un État va se mettre comme objectif de créer une simulation énormément puissante d'un être humain aussi primitif que nous sommes, parce qu'avec toutes nos capacités intellectuelles, on est toujours motivé par les trucs très primitifs qui proviennent de l'âge de pierre, en fait. Et nos émotions sont des continuations des instincts animaux. Et on est à la base, on est très primitif, je veux dire, malgré le fait qu'on est très sophistiqué. Voilà, donc, c'est pour ça que je ne pense pas que jamais une guerre entre des machines indépendantes et un être humain va arriver. Alors, je propose de fermer le thème de discussion à l'intelligence artificielle du festival et parler de l'ingénierie génétique, ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, et ce qui se passe déjà. Et c'est pas de science-fiction, on mange déjà des fruits qui sont comme ça créés par l'ingénierie génétique, et bientôt on va devenir immortel, éternellement jeune, et ça c'est beaucoup plus important que une menace virtuelle de la part des robots. Voilà.
Alors, Personnellement, je suis assez surpris par tant de certitudes sur l'incapacité des scientifiques à créer une forme d'intelligence artificielle. Et je vois très bien ce que veut expliquer Alain. Moi, j'ai pas ces certitudes-là, parce que je suis pas scientifique, j'ai pas cette culture-là. Par contre, ce qui me semble une hypothèse à ne pas négliger, c'est pas tellement qu'on invente une intelligence artificielle qui singerait totalement l'activité cérébrale humaine ou le cerveau humain, mais est-ce que c'est pas possible qu'une autre forme d'intelligence naisse dans l'informatique, qui soit pas une intelligence mimétique qui veuille reproduire la façon dont pense un être humain, mais une intelligence qui quelque part nous dépasserait parce qu'elle ne fonctionnerait pas comme nous, qui serait inconnue et qui serait peut-être due à la puissance de calcul qu'on lui donnerait au départ, mais peut-être due aussi à une façon différente, donc une façon informatique d'essayer de créer de la conscience. Parce que je l'ai dit ce matin, je suis désolé pour ceux qui étaient là, je le répète, pour moi il y a une vraie différence entre l'intelligence artificielle, ça existe dans les jeux vidéo, ça existe dans des tas de trucs, il y a des formes d'intelligence artificielle, des algorithmes et tout, et il y a une vraie différence entre la conscience artificielle et un logiciel qui a conscience de lui-même. Moi je ne suis pas sûr du tout que ça n'arrivera jamais. Je ne dis pas qu'il singe l'esprit humain ou la façon de penser de l'homme, mais qu'il ait conscience de sa propre existence. Et un logiciel qui a conscience de sa propre existence, en quoi c'est tellement impossible? Où est le mur de l'impossibilité? On ne lui demande pas d'être plus intelligent que l'être humain. On lui demande d'avoir conscience de lui-même. Voilà, moi, j'arrête là, mais je ne suis pas aussi sûr que toi, Alain.
Oui, donc, pour résumer, la prochaine apocalypse, c'est celle de la génétique plus que celle des robots. C'est vrai que, du coup, ça me fait une transition avec cette idée de programme qui a continuellement en génétique, contre lequel le bouquin Ni Dieu ni gène s'oppose avec une certaine ferveur en disant non, il n'y a pas de programme génétique, il n'y a que des probabilités génétiques. Et c'est absolument faux d'avoir une vision comme ça d'un programme qui serait de droit divin, voilà, le grand mot est lâché, qui organiserait notre situation, notre survie, notre évolution. Les auteurs de Ni Dieu ni gène précisent bien que c'est une idée absolument biblique et que la façon qu'on a de constamment classer en espèces, en sous-espèces, etc., est une espèce d'aristotélisme mal pensé, au bout du compte. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas victime d'une espèce de pétrification chrétienne constante de la pensée, l'apocalypse elle-même étant une notion chrétienne, d'ailleurs pas si négative, hein, comme on le sait, puisque l'apocalypse, ça consiste tout simplement à lever un voile et à ce qu'on voit enfin quelque chose qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire, c'est pas négatif, hein, au départ. Ça a été transformé par les films de catastrophe en grande vague qui noie tout le monde, en Godzilla, etc. C'est l'apocalypse, mais au départ, c'était pas si négatif que ça, l'apocalypse. Alors, où en étais-je? Ben oui, j'en étais à Et Dieu dans tout ça, hein, pour faire un peu mon petit chancel. Donc, est-ce que dans vos romans, est-ce que cette dimension biblique de l'Apocalypse est utilisée? Et comment vous liez ça avec les intelligences artificielles? C'est pour parler un peu de vos textes, hein, à proprement parler.
Bon, vu que des cinq bouquins que j'ai publiés, trois sont dédiés à l'Apocalypse. Donc, je suis un spécialiste autoproclamé de ce thème-là. En parlant d'apocalypse, je pense qu'il n'y a aucune autre menace plus importante à l'être humain que l'être humain. Voilà, les probabilités statistiques d'être détruit ou dévasté, exterminé par des catastrophes naturelles ou une chute dans un météore ou quelque chose comme ça, je crois que statistiquement, c'est pas très impressionnant. Par contre, c'est absolument clair que nous, déjà, la siècle dernière, on a été deux fois presque, voilà, on était bon, Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, après au moins la crise cubaine, on était déjà très proche à s'exterminer. Maintenant, je vous rappelle que je suis russe, donc grâce aux efforts incroyables de mon président, cher et aimé, on se rapproche encore une fois à une guerre au début froide et après peut-être plus chaude que ça. Voilà, donc il m'aide, c'est un accord interne entre nous deux, il m'aide à promouvoir mes bouquins apocalyptiques, en fait. Parce que moi, j'ai... C'était ça l'idée, en fait. Parce que, ouais, donc, les métros 2033 et 34 sont dédiés au thème d'une guerre nucléaire qui détruit le monde. Et voilà, les survivants sont hébergés dans les tunnels de métro moscovite. Et donc, je veux dire que, en revenant au thème de l'apocalypse, comment dire, créé par l'intelligence artificielle, donc ça, c'est notre peur de concurrence, de compétition de la part d'un autre être, peut-être que nous on crée, et qui va nous surpasser, qui va nous surmonter, et qui va être plus puissant que nous, et à qui nous allons perdre cette compétition des espèces vivantes. Voilà, c'est ça la notion, et c'est toujours parce que nous on est animal, c'est parce que nous on n'arrive pas à, comment dire, avec toute la sophistication qu'on a intellectuellement, émotionnellement et au niveau moral, je dirais, on reste toujours des prédateurs. C'est omnivore peut-être qu'on est, mais on se comporte comme des espèces qui se battent pour des certains aréales d'habitat. Voilà, c'est un peu triste ça. Et au niveau international, on se comporte comme des groupes, des animaux qui se combattent pour des certains ressources. Oui, malgré tout le succès que l'Europe post-guerre a montré, qu'on peut arriver à vivre ensemble sans se dévorer d'une façon quotidienne, c'était sympa, mais on va voir combien de temps ça va tenir. Voilà, donc, je pense que la menace la plus grande à l'être humain, ce sommes nous,
sans les doute. Russes. Est-ce qu'on peut quand même apporter une petite note d'optimisme à ce schéma catastrophique un peu, enfin, c'est comme Adam Smith hein, qui croyait qu'on n'était que qu'avidité et dévoration. On est aussi quand même, on est capable de se dévouer pour quelqu'un, de sauver quelqu'un. Est-ce qu'on ne serait pas en train de confondre le biologique peut-être, c'est-à-dire dire l'homme est mauvais, l'humain, hein, l'humain est mauvais. Je vais inclure les femmes, il n'y a pas que les hommes qui sont mauvais, donc l'humain est mauvais.
Ah non, 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 on n'est pas mauvais, hein, oui. On est comme ça. Il faut nous accepter comme ça.
Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de confondre avec les structures politiques?
Manger les autres, c'est bien, c'est important, c'est les protéines.
Mais on mange assez peu d'autres, hein, c'est assez rare. À part sur le radeau de la Méduse en 1819, on mange quand même pas beaucoup. Enfin, peut-être on le sait pas. Un hein, salin vert is made from people. Effectivement. Bon.
Si vous me permettez, j'aimerais bien revenir sur.
Certes.
On nous a expliqué là que l'intelligence artificielle, ça n'arriverait pas, etc., etc. Mais la science-fiction, c'est une littérature d'expérience de pensée où on utilise des hypothèses, même des hypothèses farfelues, et on en tire des conclusions et on tire des conclusions, des conclusions. Moi, je ne vois pas pourquoi réfléchir en termes de science-fiction, en termes narratifs, à la singularité, à l'avènement d'une conscience informatique serait totalement irrecevable. Je pense qu'en termes littéraires, c'est très intéressant de se colter avec l'avènement d'une intelligence artificielle globale, avec la création quelque part d'un nouveau dieu, dans mon texte qui s'appelle « Lumière noire », une nouvelle post-singularité. À un moment j'écris Nietzsche a tué Dieu et Silicon Valley l'a réinventé et je trouve que c'est intéressant pas parce que c'est réaliste parce que ça va arriver mais c'est intéressant de réfléchir à notre rapport au monde virtuel à la façon dont une machine qui aurait atteint la conscience imaginez qu'elle est dans tout le réseau mondial dans les satellites pour elle la Terre est un œuf, c'est quelque chose de tout petit. Donc cette machine-là, cette intelligence-là, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Moi, mon hypothèse, c'est qu'elle voudrait aller voir ailleurs, qu'elle voudrait s'échapper, qu'elle voudrait voir s'il y a d'autres choses comme elle ailleurs, en sachant que l'humanité n'est pas cette chose-là. Moi, je retirer cette expérience de pensée parce que à l'horizon de 50 ans, non, ça n'arrivera pas, bah, c'est dommage, c'est un super terrain de jeu. Enfin, c'est mon point de vue.
Non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Moi je trouve l'idée extraordinaire. Enfin, la première fois que je l'ai découverte, c'est dans Ghost in the Shell, le fait que l'océan d'information fasse émerger une intelligence par elle-même, quoi, tu vois, qu'elle se génère comme ça l'océan d'information, c'est une idée absolument poétique, magnifique et qui effectivement mérite qu'on la traite en science-fiction. Simplement, moi, je distingue ce discours transhumaniste présent qui essaye de nous faire croire que ça va arriver et qui prépare nos consciences à ça, et l'expérimentation effectivement littéraire et spéculative qu'on peut faire en SF et qu'on a le droit de faire et qu'on a besoin de faire même pour justement essayer d'anticiper ça et d'y résister. Simplement, moi ce qui m'intéresse dans le... T'as complètement raison quand tu dis que la Silicon Valley est un monde de Dieu, parce que pour moi c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est à un stade où, ok, on a subi les trois monothéismes, excusez-moi, mais on continue aussi à les subir aujourd'hui, et la plupart des guerres sont faites au nom des monothéismes. Et là, on a une idée nouvelle, on a une idée géniale, moi je trouve, c'est de dire... Ben, c'est plus l'homme qui, en inventant une figure de Dieu, va nous aliéner, nous dicter des règles, nous créer des sociétés hyper fermées, etc. C'est de dire un phénomène généré par l'homme, c'est-à-dire le développement technologique, sporulant, comme ça, diffusant, va créer une forme de Dieu qui va également nous dominer, nous aliéner, peut-être, etc. Mais ça va nous échapper, c'est pas vraiment notre faute, ça nous arrive malgré nous, quoi. Et à partir du moment où cette singularité émerge et que cette IA commence à nous chapeauter, nous diriger, nous orienter, peut-être nous contrôler, eh ben, on est en position de passivité, on est en position de servitude volontaire. Et ce qu'annoncent ces transhumanistes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils posent ça en disant, de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça va arriver, vous y pourrez rien, quoi. Donc préparez-vous, et préparez-vous à vivre dans ce cadre-là où une intelligence très supérieure à la vôtre va vous dominer. Et ça, c'est précisément le schème religieux, ça, c'est précisément le schème qui nous a aliénés pendant des millénaires, et on a une réinvention de ce schème, une façon, un phénix comme ça de Dieu qui nous arrive et face auquel on va... Et c'est contre ça, moi, que je m'élève. C'est pas contre le fait qu'en science-fiction, on l'utilise. Au contraire, moi c'est un thème que je trouve magnifique, quoi. Voilà, donc je me dis, qu'est-ce que ça prépare? Ben, pour moi, ça prépare une sorte de dépolitisation complète, parce qu'à partir du moment où cette IA adviendrait, eh ben, à quoi bon se battre? À quoi bon prendre des responsabilités? À quoi bon croire qu'on a encore les commandes, qu'on a l'illusion des commandes, puisque c'est l'IA qui va diriger? Donc on se place tranquillement, hein, comme la Boétie, en servitude volontaire, puis on est prêt à être soumis, à obéir, et à voir le monde géré par un algorithme extraordinaire ou par une IA qu'on invente. Mais qu'est-ce qui va se passer en réalité? Même si cette IA émergeait, bah, y aurait des technoprophètes, il y aurait des interprètes de l'IA, il y aurait des technoprêtres comme ça, ou des interprètes, tu vois, vous voyez, qui va arriver. Et ces gens-là, bah, ils feraient comme ça se passe dans les religions, c'est-à-dire que c'est eux qui viendraient nous dicter nos conduites de vie. Donc... C'est plus ça, je trouve que c'est une nouvelle, voilà, c'est une nouvelle mythologie extrêmement intéressante pour réinventer voilà, cette espèce de pulsion religieuse dont moi j'en ai ras le cul, quoi. Voilà, j'en ai ras le cul. Combien de fois faudra tuer Dieu, quoi, voilà. Combien de fois faudra le tuer, quoi. On le réinvente sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, quoi. Voilà, moi je pense qu'il faut en finir avec cette pulsion là, quoi.
Well, the traditional religious view of the apocalypse is that it is imposed from the above, and that's what we've been talking about. It's God or an artificial intelligence or some other thing imposing its will on us. But there are other possibilities. We've been thinking of a very patriarchal God the Father coming down and performing judgment on us and telling us how to behave. And that's what we see in, say, the Terminator films, where the nuclear apocalypse is actually called Judgment Day. And there's a very godlike being which has decided to wipe out humanity and against which there is an eternal war. But that's only one possible scenario. There's another scenario which is basically a soft god. K.W. Jeter was talking about this earlier this afternoon. If you were allowed to choose your choice of a god, would it be a big threatening figure up in the sky brandishing thunderbolts and ordering you to obey? Or would it be a cute little kitten or a teddy bear that just helps you through your life? You know, you wouldn't be conquered, you would be captured by a cute little animal that just helps you do what you want to do and helps you get through the day and tells you that you're going to be all right and that gives you a nice hug when you feel like you need a hug. That would be something to be really terrified of. Far more than the guy with the thunderbolt in the sky, I think. And the other possibility is Werner Vinge's apocalypse, which is essentially the revolt from below. This is a spontaneously organized artificial intelligence that's simply created by the complexity of an online network that begins to rival the complexity of a human neural network. and sort of spontaneously leaps into existence. This is anything but a patriarchal figure threatening us from the sky. It's something that emerges from below. It's like kind of the revolt of the ants. Just all these small little components rising to dominate the future. I have a hard time believing in that one personally. I think if you're going to have infinite artificial intelligence, you're going to need infinite energy to begin with, and then infinite funding. And I don't see either of those in the near future. But it's an intriguing idea to explore. And we have seen in recent political developments in the Middle East another kind of rising from below, in which technologically empowered people, impatient with the progress that their own governments were making, using the technology to organize themselves to create revolutions. Some of them went very well, as in Tunisia. The one in Syria didn't go so well. And now you have groups of murderous fanatics who are organizing themselves in this way to create this very same sort of patriarchal religious state, and being opposed by other groups that are bringing their own technology to bear.
Ouais, peut-être, puisque tu parlais de ce qu'on avait mis dans nos écrits, moi je vais rentrer en compétition avec toi sur le romancier de l'apocalypse. Moi j'ai deux romans, mais les deux parlent d'apocalypse. Et quelqu'un a dit du premier que c'était même un double apocalypse. Donc,
d'accord.
Donc, mais je te rejoins sur l'idée que effectivement la menace vient sans doute de l'homme et pas d'autre chose, ni d'une intelligence artificielle, ni d'un dieu en lequel je crois pas. Parce que quand je me suis retrouvé à essayer de penser à un apocalypse qui serait piloté par des intelligences artificielles, je suis arrivé à une espèce de conclusion que en fait ces intelligences artificielles n'étaient pas des vraies créatures numériques, mais en fait des humains qui nous faisaient croire qu'elles étaient des intelligences artificielles. Donc là-dessus, je te rejoins aussi un petit peu, Alain. Dans ce roman, j'ai introduit l'idée d'une intelligence viscérale, en fait, l'idée qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est ce qu'on est et qu'on n'arrivera pas à le faire dans le numérique. Et sur la religion, moi j'ai essayé d'avancer l'idée que peut-être un jour, pour répondre à toutes les questions que cette religion qui revient, comme tu le dis, comme tu disais Thomas, avec de la Silicon Valley, que peut-être on pouvait échapper à ça en se concentrant tous sur le savoir, quoi, sur essayer de s'éduquer tous au-delà d'une idée religieuse, quoi, vraiment d'essayer de regarder le monde autour de nous et de le comprendre. Et dans ce bouquin, j'avance l'idée que peut-être un jour, ça peut devenir une espèce de religion. Alors, l'appeler une religion, c'est dangereux, évidemment, parce que quand on pense religion, on pense à beaucoup de dérives. Mais l'idée de se dire que, OK, bon, on arrête avec les êtres supérieurs et tout ça, mais vraiment, on s'intéresse au monde, on regarde le monde autour de nous, on l'étudie, on le constate, on s'étudie nous-mêmes, puisqu'on fait partie du monde, mais on n'invente pas. À part quand on écrit des romans de science-fiction, on n'invente pas quelque chose qui est au-delà. On s'arrête vraiment à la compréhension un peu scientifique, un peu pragmatique de l'univers. Et ça, à mon avis, ce serait un garde-fou excellent contre toute forme d'apocalypse.
Bon, vu qu'on a parlé de deux formes de Dieu, l'une c'est Dieu Père tout-puissant qui va nous castiller pour les péchés qu'on commet. Et l'autre, c'est un petit chaton sympathique qui nous aide beaucoup, mais comme des chatons chinois là, qu'on doit là, caresser un peu, donner un peu de beurre, comme ça il fonctionne et nous aide dans notre vie quotidienne. Je pense qu'en fait, si on compare le Dieu Père à la machine qui gagne la compétition entre les humains façon Terminator, exterminateur, alors, si on parle des chatons, les chatons sont déjà là. Hein. Moi, je me suis attrapé en faisant des textos pendant la conférence. Et après avoir fait des textos, j'ai commencé à faire un peu d'Internet, comme ça, sans nécessité, parce que, voilà, c'est une addiction. Et parce que les appareils, grâce à Steve Jobs, rest in peace, sont déjà là. En fait, on est déjà très dépendant de ces appareils. Et l'intelligence artificielle nous est déjà complète. On ne peut pas se passer sans des appareils. Et c'est un processus super vite qui s'est passé pendant les derniers 10 ans, même moins. Voilà. Et donc là, si on doit avoir peur, craindre une certaine forme d'apocalypse, ça serait notre dégradation totale intellectuelle et émotionnelle à cause de l'apparition des appareils, des smartphones, d'autres appareils qui devaient à la base faire notre vie plus facile et plus sympa. Maintenant, on ne peut pas se passer sans eux. Et ça complète, en fait, malgré le fait que je ne pense pas qu'on va vraiment porter les lunettes de Google, parce qu'on n'aime pas vraiment que quelque chose touche notre visage. C'est pour ça qu'on ne porte pas beaucoup de Bluetooth aussi, malgré toutes les prédictions. Par contre, ça, une chose qu'on a l'illusion de contrôler, parce qu'on peut toujours mettre dans notre poche, mais on ne la contrôle pas du tout, parce qu'une fois qu'on a mis ça dans notre poche, on commence à la ressortir parce qu'on a l'impression que ça sonne. Et après, c'est pas sonné, bien sûr. Et bon, c'est la chance pour voir des courriels, etc. Et après, voilà, de l'Instagram, et voilà. Et après, un peu de Twitter, tout ça. Donc, on a déjà souffert une grande perte dans cette guerre contre l'intelligence artificielle, et on n'en est même pas conscient, voilà.
Donc là, en fait, on ne parle pas vraiment d'intelligence artificielle en tant que telle. On parle de greffage sur un corps. C'est le corps qui éprouve encore...
Des petits dieux considère même pas des dieux.
Mais rassure-moi, oui. L'iPhone, il est conscient ou pas? Lui, si nous, on ne l'est pas.
Nous, on n'est pas conscient. Voilà, ça, c'est une machine.
On est plus proche de la figure du cyborg, finalement, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait augmenté. C'est-à-dire notre corps, notre humanité, enfin notre humain de base, se trouverait augmenté par des gadgets, etc. Enfin, c'est pas nouveau, hein, les lunettes,
on
je sais plus à quelle époque ça a été inventé.
Mais en fait, c'est nous qui sommes dégradés, quoi. On transmet une partie de notre âme, de notre esprit, notre intellect dans une machine, et on n'est pas vraiment un être complet sans la partie qu'on a transmise dans une machine.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps? Tout le monde a des lunettes, ou presque.
Des vêtements, par exemple.
Des vêtements, des montres, des...
Ouais,
des
mais quand même, quand on ne mettait pas partie de notre âme éternelle dans une machine à taper ou dans une télé, quoi. Mais là, c'est clair qu'on est dépendant. Moi, je suis en addict. Je dois avoir un médecin, encore une fois, ouais.
Il y a juste le temps encore d'une toute petite question avant de laisser la parole à la salle. Peut-être on pourrait rebondir là-dessus en se demandant dans quelle mesure l'humain ne devient pas une sorte d'incapable, presque au sens juridique, hein, une sorte de... Il est mis en tutelle, l'humain est mis en tutelle par tous ses appareils, ou alors par son petit chaton adorable qu'il aime tant et qui en réalité veut le détruire. Et en fin de compte, on peut se demander... si la formule contre Dieu, c'est pas une sorte de dérive par rapport, enfin de dérivation plutôt par rapport au célèbre slogan féminisme, ne me libère pas, je m'en charge, au niveau des humains en général. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que l'humain arrivera à se passer de Dieu, que Dieu soit un gentil chaton qui va peu à peu nous dévorer? Les chats dévorent, hein, les cadavres, hein, vous savez, vous avez lu des histoires horribles comme ça, pour de vrai, hein, quand on retrouve des vieilles dames et les chats, leurs chats les ont mangés. Bon, c'était le côté gore, désolé. C'est... Donc voilà, c'est juste une toute petite question.
Juste pour rebondir là-dessus, effectivement... La chose qui est certaine, c'est que ce mythe d'une IA qui nous dépasserait vient de quelque chose d'extrêmement concret, qui est notre rapport aux machines quotidiennes, aux technologies quotidiennes qu'on a. C'est-à-dire qu'on externalise effectivement de plus en plus de choses dans la machine. On l'a externalisé énormément dans les voitures, les vélos, etc. C'est-à-dire énormément des capacités physiques dans la machine. Puis depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on externalise? C'est les capacités cognitives, la mémoire dans les moteurs de recherche, la capacité d'orientation dans le GPS... la capacité même à traduire une langue dans des applis maintenant qui sont dans les iPhones, etc. Et plus ça va, plus on essaye de déléguer, d'externaliser, on sous-traite à la machine le maximum de choses et même des tâches élémentaires cognitives. Donc, si on pousse ce mouvement plus loin, et c'est le propre de la science-fiction, c'est la spéculation, c'est ça, l'anticipation, c'est ça, souvent, si on extrapole au plus loin une tendance qu'on sent, qu'on intuite comme ça dans nos quotidiens, et si on la pousse au maximum, on arrive à l'IA effectivement toute puissante qui... auquel on déléguerait l'organisation politique, notre mode de vie, notre structuration sociologique, etc. Donc oui, c'est enfermant dans ces petites technologies dont il parle.
C'est ce que tu disais sur la servitude volontaire. Hein.
Ouais, ouais,
on peut
ouais,
citer Spinoza.
C'est...
Hein, l'homme
mais le phénomène d'addiction, c'est très concret, oui. Mais c'est très vrai. Oui. C'est de l'addiction, oui. Donc on délègue. À la fin, à force de déléguer, autant déléguer à Dieu, il fera tout mieux que nous. Quoi, ouais, tu vois,
l'ordinateur qui gère les vies, qui gère le système politique, tout ça. L'ordinateur central, c'est un thème qu'on trouve dans SF déjà des années 50. C'est pas quelque chose de nouveau. La vraie nouveauté, ce que la science-fiction n'a pas du tout vu, c'est Internet. Ce qu'allait vraiment être Internet, ça, personne n'a vu, même les cyberpunks, même William Gibson, n'a pas vu à quel point ça allait être ça. Et le deuxième truc que la science-fiction n'a pas vu, c'est le téléphone portable. Et la façon dont le téléphone portable allait devenir une extension de notre vie quotidienne, de notre vie professionnelle, de notre vie tout court. Moi, je trouve que c'est pas une fatalité. Le téléphone portable, on peut le débrancher. Je le débranche très souvent quand j'écris. L'internet, on peut se débrancher, ne pas regarder ses mails pendant 3 jours. Rien de tout ça n'est une fatalité. Mais c'est vrai que il faut avoir conscience de la dépendance qu'on a à tous ces environnements. Il faut avoir conscience du changement d'environnement. Ces 10 dernières années, ce qui a été le plus notable dans notre société, c'est que notre environnement a changé vraiment. Aujourd'hui, quand on veut une info, on va sur Wikipédia. On va plus dans un dictionnaire, on n'ouvre plus un livre en papier. Quand on veut de l'information, on peut avoir de l'information continue, réellement continue, 24 heures sur 24. On peut être baigné dans cette information que personnellement je trouve comme une forme d'agression, mais ça c'est un autre problème. Vous voulez choisir l'endroit de vos vacances, vous regardez sur internet où il va faire beau dans les 3 jours qui viennent, et parce que vous êtes très mobile et parce que vous pouvez réserver les hôtels par hotel.com, etc. Vous réservez pour le week-end d'après ce que vous voulez à la dernière minute. Et notre environnement a changé. La façon dont on organise notre temps, notre travail, tout ça passe par des téléphones portables, des ordinateurs qui n'avaient pas du tout cette importance-là. Moi, quand je suis arrivé dans le métier d'édition il y a 20 ans, je suis arrivé chez De Noël il y a 16 ans, personne n'utilisait Internet chez De Noël pour le travail. On n'envoyait pas d'email pour avoir des contrats, tout ça partait par courrier, on faisait pas de recherche sur les auteurs via Internet, etc. Et moi, je venais de ma petite entreprise, j'avais créé moi-même, et je faisais déjà tout via Internet, et donc j'ai vu que les gens comprenaient pas ce que je faisais et comment je travaillais, et donc je leur ai dit, mais voilà, je fais comme ci, comme ça, etc., etc. Sauf que ce rapport à l'environnement professionnel, moi je le trouve normal. Et Internet, c'est un outil formidable, et ça fait gagner du temps, etc., etc. Là où je trouve les choses pas normales, c'est quand j'essaye de déconnecter mon gamin de 10 ans de sa tablette, et que ça devient une espèce de crise de nerfs pas possible, il tape du pied, il roule par terre, c'est la fin du monde, que juste je lui ai demandé, ben non, t'arrêtes, t'en as fait 3 heures, bon là ça va, ça s'arrête. Donc il faut gérer l'addiction, et moi chez mes enfants, l'addiction était telle que maintenant, ça y est, c'est interdit. Parce que j'ai pas pu gérer progressivement le truc, donc... Quand ils ont école, ben, y a pas de tablette, il n'y a pas de DS, il n'y a pas d'ordinateur. C'est interdit. Les écrans, c'est un peu le week-end et point barre. Et on est obligé de faire ça parce que l'environnement les contamine comme une maladie. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement informatique qui est tellement évident pour eux. À 2 ans, déjà, ils jouent sur la tablette et ils font du Candy Crush et compagnie, machin et bidule. Tout ça est évident pour eux. Ils sont nés avec. Ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est probablement pas ton cas non plus. Donc la différence, elle est là. Et ça, c'est pas un danger apocalyptique, parce que je crois pas que c'est un danger apocalyptique. Je pense que c'est un danger d'addiction et un danger de perspective. Les enfants n'ont plus de perspective parce qu'ils sont collés à ces trucs-là et ils perdent la moitié des perspectives qui est dehors, l'environnement, la nature, les copains, aller pêcher, jouer, faire du foot, toutes ces conneries-là. Si on les laisse faire, ben non, ils font des jeux vidéo toute la journée et ils sont sur les réseaux sociaux toute la journée et ainsi de suite. Et ça, moi je considère que c'est pas une fatalité. Vraiment pas. Je considère qu'on peut se débrancher, qu'on doit se débrancher, et que c'est un outil de travail, que c'est un outil qui peut être sympa d'un point de vue social, mais que c'est pas quelque chose sur le... Il faut pas que ces trucs-là prennent le pouvoir sur nos vies, parce que on va devenir une espèce de légume, et on va plus réfléchir par nous-mêmes, et tout... L'environnement, sans même qu'il y ait de l'intelligence dedans. L'environnement réfléchira pour vous et vous dira, ben voilà, votre livre préféré c'est ça, votre restaurant préféré c'est ça, ce week-end vous faites ça parce que ça va vous plaire, et ainsi de suite.
Oui, bref, c'est une table ronde sur le libre arbitre.
That's the soft apocalypse, isn't it? That's the apocalypse of convenience. You know, where traditional life ends simply because
le danger c'est le confort. Ça a toujours été le danger d'une société, c'est le confort. Quand une société s'installe dans le confort, le danger vient avec. Parce que le confort c'est la surproduction, le confort c'est dévorer plus d'énergie qu'on a besoin, c'est ne pas faire attention aux choses, ne pas faire attention à l'eau courante, ne pas faire attention à la baisse de qualité des antibiotiques et leur impact. C'est le confort. On ne voit pas le danger parce qu'on est confortable et tout est simple et tout est beau. Et si vous gagnez bien votre vie, si vous gagnez correctement, ben voilà, c'est confortable. Sauf que le danger, il est tout le temps là.
Yeah, that's the soft apocalypse, but I think the hard apocalypse requires what religion has always required, which is faith. That I know people who have faith that they will develop artificial consciousness, and they have a faith as to what that artificial consciousness will mean for us. there are people who have faith in the singularity. There's no evidence that the singularity will ever happen. But they believe it's going to happen, and they're planning for it to happen. And if necessary, they are going to try and make it happen, because it's what they need themselves. There's a kind of a cultish aspect to the people who believe in uploading, which they want to put their own consciousness into machines. I talked to one man. He wants to upload himself into a spaceship, and then he wants to tow a solo trip across the galaxy, to the other end of the galaxy, a 150-million-year trip by himself in a box. And he had deep faith in this project. He said because he would get to know himself better, right? That was his goal. And I said, why don't you just buy a small boat and sail it to Tahiti? Because it'll be the same experience, and you can find out, you know, and the technology already exists, so you can do it now. But he just stared at me as if I was a lunatic, because this wasn't his faith. You know, it was too mundane. He had to believe in this 150-million-year voyage that would give his own life meaning. So I think getting back to my suggestion that artificial intelligence and these programs are made for human objectives, I think if you have, if we're going to have that kind of hard apocalypse, it's going to be because human beings want it to happen. And possibly it's because human beings who aren't very good at being human beings are going to want that big patriarchal figure in the sky to tell them what to do and to tell everyone else what to do. Because there might be somebody being wrong on the internet, and that person has to be corrected, and it has to be corrected immediately. And of course, if you're on a place like Facebook, you see these people all the time. That they have they understand the way, the truth, the light, and they want to impose it on everyone else, and it's an unquestioning blind obedience. It may not be to any god we can recognize, but it's definitely a god.
Alors, est-ce que vous avez des questions?
En vous écoutant et en lisant le sujet, j'ai pensé à Battlestar Galactica, qui est l'exemple qui me vient en tête quand je pense à des machines qui ont la foi, avec justement une guerre de religion doublée d'une tentative d'apocalypse d'une espèce nue de cyborg par les humains, plus les développements qu'on voit au cours de la série, où c'est pas forcément si simple. Et j'ai repensé à ce que disait M. D sur l'intelligence artificielle et la conscience artificielle. Les religions, ça répond à la question « Que devient-on après la mort ?» Et autant que je sache, l'iPad ne se pose pas la question de ce qui se passe au bout de 2 ans quand il sera obsolète. Le jour où l'ordinateur aura la conscience qu'il va disparaître, je voudrais savoir comment est-ce que son programme va réagir. Et à ce moment-là, je me commencerai à avoir très peur.
Oui, on a rebondi avec les
idées. So far, my computer has not objected when I've tried to turn it off. and I'm not going to be terribly worried until I can no longer turn off my computer.
C'est pas vrai, hein? It tells you, do you really want to turn off? And that's a soft apocalypse. I mean.
Même quand on débranche un ordinateur, rien, on arrive à l'ordinateur, quoi. Et si on arrive à transmettre la conscience à une machine, ça serait bien. Et l'ordinateur, par contre, tu fais copier-coller, voilà, hop. Les ordinateurs ne meurent pas, ils vont pas mourir, ils vont être éternels. Et c'est notre but aussi, c'est mon objectif personnel. Transmettre ma conscience à ordinateur, sur une flash, hop, c'est parti.
Et d'autres questions? Juste derrière?
Oui. Non. En parlant d'apocalypse, vous avez beaucoup parlé de religion et fait pas mal d'amalgame ou de confusion, je sais pas comment dire, entre religion, Dieu, spiritualité et nécessité de tuer ou d'évacuer ce genre de notions. Et plutôt que de penser à l'alternative entre le gros Dieu méchant et le petit chaton gentil, Je voulais juste savoir si vous arrivez de pouvoir, dans vos écrits, ou dans le futur, dans de futurs écrits, avoir envie de développer un homme qui puisse avoir la foi sans avoir ces idées de religion qui tuent tout simplement la spiritualité, d'avoir des envies d'écrire une humanité ou tout simplement une spiritualité éviterait de fait l'apocalypse puisqu'elle permettrait à l'homme de se développer.
Well, I think the apocalypse is originated as a Christian idea that the end of the world would happen, that there would be judgment, and that there would be something that followed. But other parts of the world didn't have that. If they believed that the world ended, then they believed that the world started all over again and proceeded exactly the way it had the first time. You find that in Hinduism, for example, and in Native American religions. But the idea of the apocalypse as a final judgment has proven very powerful throughout the world. So now you have an apocalyptic cult in Japan that spread nerve gas on the metro. All right, I mean that's nothing to do with any kind of traditional Japanese religion. So I think spirituality is perfectly possible without the idea of a powerful God and a final judgment. I think spirituality is what connects the individual to the rest of the universe without necessarily involving the intellect. And I think it's possible to do that. But that doesn't speak to the need in some people for some kind of final ending and judgment. I'm kind of more interested in where that need comes from. Because as long as that need exists, there's going to be some kind of fantasy to fulfill it.
Peut-être pour prolonger là-dessus, oui, moi, comme je disais tout à l'heure, dans mon roman, j'ai cette espèce de spiritualité. Alors, de la science, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout qu'on mette la spiritualité près de la science. Mais c'est un peu cette idée-là, c'est l'idée que d'arrêter avec les religions un peu hard, on va dire, et de faire une religion un peu soft, pour reprendre les termes qu'on avait tout à l'heure. Et donc de réfléchir au monde calmement, sans s'affoler, sans aller vers l'apocalypse. Alors évidemment, malheureusement, pour les gens qui prônent ça dans mon roman, ça se finit mal à cause des autres dont on a abondamment parlé jusqu'ici.
Moi, je dirais que c'est vrai que l'idée de l'apocalypse, elle est extrêmement puissante pour empêcher la pensée, quoi. En tout cas, pour empêcher les pensées positives, puisque c'est fondé sur la peur et la punition, quoi. Donc c'est la meilleure façon d'empêcher les gens de développer justement une spiritualité positive. Moi, évidemment, dans mes livres, j'essaye de faire exactement l'inverse, et depuis le début, si je prends juste l'exemple de la Horde et très rapidement, pour moi, effectivement, c'est une éloge de la vitalité et du vivant, quoi. Donc c'est une croyance très profonde en la force de la vie, en la puissance de vivre, et cette puissance de vivre, je la développe sur deux thèmes principaux, le mouvement et le lien, quoi, c'est-à-dire la capacité à être en mouvement dans sa pensée, dans sa perception, dans ses émotions, et puis la capacité à être lié aux autres, lié au cosmos, lié à la nature, lié aux autres, et lié surtout à soi aussi, puisque le lien intérieur, c'est quelque chose qu'on a tendance à éclater en ce moment, puisqu'on se disperse beaucoup, on se coupe beaucoup de ce qu'on peut. Et du coup, voilà, c'est une forme de spiritualité qui effectivement, puis ses sources chez Nietzsche, et dans la pensée grecque, chez Deleuze, chez Foucault, etc. Donc il y a une spiritualité très puissante dans les philosophes occidentaux contemporains. Et je pense qu'on peut largement s'en inspirer, ouais, tout à fait.
Moi, je pense que la spiritualité ainsi que l'apocalypse viennent tous les deux de la notion de notre mortalité. On est mortel, on a peur de la mort, on a peur de perdre ceux qu'on aime. On ne veut pas s'associer avec la flèche, avec notre corps. On veut penser qu'il y a quelque chose à part ça, quelque chose ailleurs. On s'externalise à notre âme immortelle, qui est une notion plutôt virtuelle, comme ça. C'est parce que on doit mourir, c'est parce qu'on est obligé de perdre ce qu'on aime, on veut croire que ce monde injuste et qui ne fonctionne pas d'une façon idéale, on dirait, peut être redémarré. Et c'est ça la notion, une des parties de notion de l'apocalypse. On va redémarrer le monde, on va le rebooter, et comme ça va marcher l'autre fois, dans cette version 2.0, ça va marcher mieux que la version courante. C'est une chose. L'autre chose, c'est que carrément, on doit tenir les êtres humains qui ont peur de la mort en espoir et en peur pour que la société fonctionne. d'une façon plus ou moins disciplinée et pour que les êtres humains ne se dévorent pas entre eux. Donc il faut les bien discipliner en leur faisant peur, en leur donnant un espoir de continuation après, d'une deuxième chance qui va poursuivre en redémarrage de ce monde-là. Voilà, donc, si la spiritualité, alors, c'est l'externalisation de notre personnalité dans un concept virtuel, ça provient de même origine que la notion d'apocalypse. C'est le fait qu'on veut pas croire qu'on est des morceaux de viande, à la base. Donc, si, à mon avis, la spiritualité a des mêmes racines que l'apocalypse, et l'un ne peut pas exister sans le deuxième. Quand on devient immortel, dans une cinquantaine d'années, on ne va pas avoir besoin ni de l'âme, ni d'apocalypse, ni de spiritualité. On ne va pas avoir aucun problème de s'associer avec le corps, parce que le corps, effectivement, sera immortel, et ça serait un bon porteur de notre identité. On ne va pas avoir peur de le perdre.
Bon, écoutez, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est au moins la fin de cette table ronde, car notre temps est écoulé. Donc je vous remercie. Je remercie aussi les intervenants.